Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé,
le magazine des cultures et des identités en mouvement. La radiographie d'une famille franco-vietnamienne, celle de Doan Bui, journaliste, grand reporter, qui cette fois mène l'enquête et éclaire les angles morts de sa propre famille. Un récit, Le silence de mon père, paru à l'Iconoclaste. C'est en vietnamien que mon père retrouvait sa véritable voix. En vietnamien qu'il parlait de littérature ou de poésie avec ses amis. De ce continent-là, de cette voix intérieure, nous n'avons jamais rien su. Nous n'avons rien voulu savoir. Dès que mon père parlait sa langue, sa voix portait davantage. Dans la rue, les gens se retournaient parfois. Adolescente, j'avais honte. Aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte. Bonjour Doan Bui.
Bonjour.
C'est peut-être, me semble-t-il, pour conjurer cette honte, et puis peut-être pour percer aussi les secrets de ce père taiseux, que vous avez écrit ce récit, un récit qui est à la fois une enquête, donc vous êtes journaliste, vous savez faire ce genre de choses, et puis c'est aussi un devoir de mémoire, en même temps qu'une radiographie de vous-même, fille d'immigrée, qui a un besoin absolu de réconcilier son double je. Et puis, chemin faisant, eh bien, il y a un suspense puisque vous allez découvrir tout un pan caché de la vie de votre père. Donc, il y a toutes ces dimensions dans ce récit.
Exactement. En fait, il se trouve que moi, dans mon travail de reporter à l'Obs, il se trouve que voilà, ça fait des années que je raconte les migrants. Et donc, j'ai interviewé des migrants de tout pays, je pense, de Syrie, d'Érythrée, du Maroc. J'ai parlé à beaucoup d'exilés. C'est vrai, sans cesse, je revenais à ce sujet-là.
Et puis, comme par hasard,
mais à l'époque, je me disais que voilà, c'était juste parce que ça m'intéressait. Et en revanche, il y avait effectivement, comme vous dites, un angle mort. Je crois que le terme est très bien choisi parce que c'est justement le seul migrant, le seul exilé à qui je n'ai jamais posé de questions, c'était mon père. Et les seules histoires d'exil qui ne m'intéressaient pas, ou en tout cas auxquelles je ne voulais pas m'intéresser, c'était tout ce qui concernait le Vietnam. Donc, je suis une grande lectrice, mais je ne lisais rien sur le Vietnam. Je me suis beaucoup intéressée à la décolonisation, mais je ne me suis jamais intéressée à la décolonisation vietnam. Enfin, il y avait, je pense, une espèce de refus d'obstacle par rapport à cette histoire-là qui concernait l'histoire de ma famille.
Et ce qui va débloquer, en fait, le processus, c'est l'accident de votre père.
Ça ne s'est même pas débloqué à ce moment-là, mais disons que j'ai réalisé très brutalement. Donc mon père en 2005 a eu un AVC, il en est sorti aphasique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler, et donc j'ai été effectivement confrontée au silence physique de mon père, où j'ai réalisé que toutes ces questions que je ne lui avais jamais posées, je ne pourrais plus les lui poser. Et il se trouve qu'en plus je suis devenue maman cette même année-là, et je pense que quand on devient parent, c'est là qu'on s'interroge beaucoup sur la transmission. Et notamment, je pense que je m'étais toujours vue comme française, point. Et en devenant, mes filles sont eurasiennes, en fait, en devenant maman, je me suis beaucoup posé des questions sur mes racines, que j'avais quand même beaucoup, je pense, niées et rejetées. Et en même temps, je me suis demandé, voilà, quelle histoire je vais léguer à mes enfants. Donc, ça a commencé, parce que ça serait très, si ça avait été aussi simple que ça, qu'en 2005 tout s'était débloqué.
Non, c'est progressif.
C'est progressif. D'ailleurs, vous voyez, on est en 2016. Donc, on peut pas dire que le processus a été très, très rapide. Mais en tout cas, effectivement, il y a une prise de conscience à ce moment-là. Et, et la certitude qu'un jour, il va falloir que je me confronte à cette histoire. Donc, et je pense qu'en fait, à chaque fois, c'était une espèce de pas de... Et mon travail, en fait, m'a toujours ramené à cette histoire. Je pense à un livre que j'ai fait avec une de mes consoeurs qui s'appelle « Ils sont devenus français ». C'était donc en 2011, et où nous avons retrouvé dans les archives des dossiers de naturalisation de français, Apollinaire, Chagall, enfin, qui sont désormais devenus très français. Mais je pense, à la base, pourquoi je me suis investie dans ce projet, c'est parce que je m'interrogeais beaucoup sur qu'est-ce que ça voulait dire, cette fameuse identité nationale dont on nous rebattait les oreilles. Donc, par ce biais-là, je suis rentrée aux archives, et c'est là que j'ai consulté pour la première fois le dossier de naturalisation de mon père. Donc c'est un petit peu comme si cette histoire que je fuyais, finalement, de par mon travail de journaliste, elle me poursuivait. C'est une espèce de pas de deux où je pense que j'ai à chaque fois tenté d'esquiver, et chaque fois cette histoire me rattrapait.
Oui, alors il y a une sorte de suspense dans le livre, puisque on commence par la figure du père taiseux. Alors un père taiseux, ce n'est pas forcément un père immigré, puisque dans
fait.
Les...
Je crois que c'est très universel. Hein,
voilà. Surtout dans les générations d'autrefois. Aujourd'hui, je crois que les pères s'expriment plus. Donc, il y a cette figure un peu de sphinx du père qui est à la fois très aimant, pas triste, mais c'est un homme opaque.
Exact. Oui, c'est un homme qui parle peu, ou alors peut-être qu'on ne sait pas écouter. Et comme vous le dites, je crois que c'est assez universel. On connaît peu ses parents, puisque finalement on les assigne un rôle, le rôle de nos parents, et on a du mal à imaginer qu'ils ont une vie avant. Donc moi, pendant très longtemps, je me suis peu posé de questions sur cet avant, sur son exil. Je savais même pas quand est-ce qu'il était venu en France. Voilà, et finalement, je me rendais compte que toutes ces questions qu'on nous apprend en école de journalisme, qui, quand, quoi, j'étais incapable d'y répondre pour moi-même et pour le parcours de mon père. Même son prénom, en fait, puisqu'en fait, il y a tout un système de dénomination en vietnamien. Dans un couple, par exemple, la femme appelle son époux Han, ça veut dire grand frère. Même son prénom, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre quel était le prénom de mon père, puisque il avait un surnom qu'utilisaient les Français, comme on disait, donc ses collègues français, parce qu'ils avaient du mal à prononcer son prénom, mais qui n'avait rien à voir avec son véritable prénom vietnamien prononcé à la vietnamienne, et qui n'avait rien à voir non plus avec la façon dont l'appelait ma mère, donc son épouse, ou même sa famille, puisqu'il y a tout un système de petits frères, grands frères. En vietnamien, souvent, les gens sont désignés par rapport à leur position dans le groupe ou dans l'entité familiale. Donc moi-même, même le prénom de mon père, j'avais du mal à répondre quand je devais répondre à cette question-là. Donc c'est vous dire à quel point je partais de loin dans cette enquête.
La question du nom est essentielle dans ces cas-là, et vous-même, vous utilisez comme nom de plume Doan Bui, alors que votre véritable prénom, c'est Thuy.
Oui, mais je crois qu'en par là, pour le coup, je l'ai retrouvé dans beaucoup de familles d'immigrés, cette espèce de pas deux avec les prénoms. Il y a un livre très beau d'ailleurs de John Palairi qui raconte ça, en fait, qui s'appelle Un nom pour un autre, dans lequel je me suis beaucoup reconnue, parce que finalement, je pense qu'il y a on est sans cesse en train de jongler entre deux identités. Il y a l'identité de la maison, qui est l'identité, on va dire, vietnamienne, et il y a l'identité sociale de dehors. Et moi, effectivement, j'ai coupé mon nom en deux, parce que personne n'arrivait à le prononcer. Et donc, je suis devenue Doan. Voilà.
Venu d'Asie. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Dohan Buis qui publie ce beau récit, Le silence de mon père. Alors Dohan Buis, c'est aussi un peu votre propre psychanalyse que vous faites dans ce récit, puisque on comprend aussi dans votre cheminement ce que c'est que la sensibilité d'une fille d'immigrée, elle-même née en France, mais qui jongle avec ses identités. Et alors on a ce mot terrible, parce que je ne savais pas qu'on utilisait à l'école, on vous appelait la Shintok. Et ça, apparemment, ils ont tous, les enfants venus d'Asie, de typés asiatiques, ils ont droit à cette appellation, à l'école.
Oui, ça c'est banal, pour le coup. Ouais. Shintok, ouais, c'est assez... Bon, après, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir souffert du racisme, mais c'est juste, voilà, c'est quelque chose qui arrivait tout le temps, tout comme, voilà, on parle très dans la rue, on me dit souvent... Très souvent, ni hao. Je pense que la phrase que j'ai dit le plus, donc qui veut dire bonjour en chinois, et la phrase que j'ai dû dire le plus souvent dans ma vie, c'est non, je ne suis pas chinoise, et non, je ne parle pas chinois.
Mais ça vous énerve quand vous confondez.
Ça m'agace.
Et votre mère en particulier, dites-vous, alors elle, ça l'exaspère qu'on la prenne pour une chinoise.
Ben oui,
il y a aussi quand même une hiérarchie là.
Surtout, elle ne se voit pas du tout comme chinoise, et elle a du mal à comprendre qu'on la voit comme telle. Donc souvent, ça a fait des situations un petit peu cocasses. Mais oui, je pense qu'il y a une espèce de... Il faut s'habituer à être indistinct, en fait. À être... je me rends compte, par exemple, souvent qu'on peut me confondre avec d'autres Asiatiques. Donc, très souvent, ça peut parfois me vexer. Mais c'est parce que je me rends compte qu'effectivement, nos visages peuvent être mélangés. Donc, je me rends compte qu'en fait...
Citation, ouvrez les guillemets, ils se ressemblent tous.
Exactement. Donc, mon jeu est... Et souvent, je pense d'abord asiatique avant d'être mon jeu à moi. D'où cette difficulté à endosser le jeu JE, avec en plus une difficulté qui est d'ordre culturel même, qui est de parler de soi à la première personne, qui est quelque chose que ce que je dis dans le livre, qui est un truc de français, puisque bon, c'est vrai que chez nous, on disait beaucoup les Français, il y avait nous et les Français. Enfin, ça aussi, je crois que c'est assez typique de beaucoup de familles d'immigrés. Et il y a cette autre chose étrange en vietnamien, c'est que certes il y a un mot qui veut dire jeu qui est le toy, mais qui est très très peu utilisé en fait. Et finalement les Vietnamiens parlent très souvent d'eux à la troisième personne, mais pas une troisième personne. Plutôt en fait, si vous parlez à votre mère, vous allez dire enfant veut ceci, enfant fait cela. C'est toujours là encore vous positionnez par rapport au groupe, vous faites partie d'un collectif et vous n'êtes pas un jeu. Le jeu individualiste, le jeu français est très très peu dans cette culture vietnamienne. Donc voilà, il y avait déjà une transgression, rien que le fait de faire ce récit à la première personne.
Alors dans ce récit, on découvre les éléments de cette honte que vous avez. Par exemple, vous détestez vous balader avec un sac plastique des frères Tang, parce que ça
vous marque. Je détestais. Non, disons que j'ai réalisé, mais je pense que, voilà, comme beaucoup d'adolescents, que pendant longtemps, en fait, je voulais tellement être française que je rejetais tout ce qui m'assignait à cette identité asiatique.
Alors vous avez été formatée, et c'est très intéressant, on voit comment il y a des codes et des valeurs dans votre famille. Alors il y a déjà cette idée de ne pas perdre la face, donc ce qui explique aussi le silence de votre père, c'est-à-dire quand on est malheureux, quand il y a un souci ou quelque chose qu'on préfère ne pas trop révéler.
On ne dit rien.
C'est opaque.
On ne dit rien.
Et puis alors, il y a le formatage, et c'est très intéressant, auquel vous avez été soumis. Parce que votre père, il est, alors entre guillemets, toujours anapath, c'est-à-dire qu'il a choisi en tant que médecin une discipline qui, semble-t-il, est très souvent pratiquée par des médecins d'origine asiatique. Donc, il analyse des lamelles, notamment pour diagnostiquer des cancers. Et vous-même, lors de votre formation, vraiment, on vous pousse, c'est-à-dire on veut l'excellence. Et vous dites que c'est aussi une des caractéristiques des familles venues d'Asie.
Oui, il y avait, on devenait soit médecin, soit ingénieur. Donc là aussi, décider de faire des lettres, décider de devenir journaliste, c'était aussi... une transgression en fait par rapport à ce à quoi j'étais programmée. Et aussi je pense que pour moi-même l'idée pour moi, quand même, journaliste, c'est un métier de français. Je reprends encore cette expression, mais je pense quand même que c'était comme ça que je voyais ça, puisque ben justement, c'était quelque chose en rapport avec la langue. Et vraiment, mes premiers articles, je me rappelle encore de voir mon nom, où j'avais l'impression d'avoir pénétrer par effraction dans un monde qui n'était pas pour moi. Et c'est vrai que de cette période, je traîne et ce sentiment d'imposture, je pense qu'il est commun là aussi à beaucoup d'enfants d'immigrés, qui est de ne pas être à sa place. Hein, parce que finalement, je pense que en tant qu'enfant d'immigré, on joue toujours un peu un rôle. On essaye d'être français avec les parents, on est l'enfant de nos parents. Et donc, il y a ce jeu qui fait que de temps en temps, ce questionnement revient en se demandant, bon, là, j'ai vraiment bien joué, j'ai bien joué mon rôle, mais est-ce qu'un jour tout ça ne va pas s'écrouler? Est-ce que un jour on ne va pas se rendre compte qu'en fait, non, je ne suis pas, j'ai toujours dit que j'étais française, mais en fait, non, autour de moi, on va se rendre compte que je ne suis pas française. Et c'est vrai que,
c'est Il y a une souffrance, malgré le fait que vous étiez dans une famille structurée, aimante, bien intégrée.
J'estime que je suis très française, mais je pense que tous ces débats sur l'identité nationale, et notamment ce que je raconte dans le livre, quand j'ai dû à un moment refaire mes papiers et que j'ai dû prouver d'être française, c'est vrai que ça m'a pris longtemps, hein, c'était assez kafkaïen, donc pendant 9 mois, j'ai dû trouver des papiers pour justifier le fait que j'étais française, alors qu'évidemment, j'aurais été française de souche, c'était beaucoup plus simple, en fait.
Donc ça vous a sauté à la figure, tout
oui,
d'un
ça
coup.
M'a sauté à la
je
figure.
Je ne suis pas vraiment d'ici.
Voilà, exactement, mais là, c'est même pas que ça m'a sauté à la figure, c'est qu'on me l'a dit. On m'a dit, il y a 2 catégories de Français. J'étais un peu moins française que les autres, puisque j'étais obligée de prouver que j'étais française. J'étais obligée d'aller au tribunal, obtenir ce fameux papier, ce certificat de nationalité française, que aujourd'hui je garde précieusement, puisque on m'a dit qu'on ne délivrait pas de duplicata. Donc je l'ai certes scanné en 1500 exemplaires et je l'ai mis quasiment sous vide. On me l'a dit. Donc moi qui m'étais toujours vécue comme française et qui avait tout fait pour m'intégrer, voire en me désintégrant, puisque j'ai aussi nié cet autre héritage qui me venait du Vietnam, qui me venait de mes parents. Ça a été quelque chose d'assez violent de réaliser ça.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Aujourd'hui, ce monde est celui de Do Anh Bui, fille d'immigrés vietnamiens qui publie un très beau récit, Le silence de mon père. Do Anh Bui, donc, tribulation dans ce dossier de naturalisation, donc prise de conscience que vous aviez des choses à prouver, plus qu'un français, entre guillemets, de souche. Et puis l'enquête continue, et dans les papiers, dans les recherches que vous faites, et vous êtes prix Albert Londres, grand reporter, enfin vous avez les méthodes de la journaliste d'enquête, vous découvrez quelque chose qui n'était pas prévu dans la vie de ce père taiseux, aimant, très présent, impeccable hein, comme père. Il y a un secret dans la vie.
Il y a même
père.
Plusieurs secrets en fait, ouais. Parce que si, bon, par exemple, en investiguant dans l'histoire familiale, notamment l'histoire du Vietnam, je me suis donc enfin intéressée à l'histoire de ce pays qui est le pays de mes parents et indirectement le pays de mes racines, et j'ai découvert que mon grand-père était Viet Minh et ma mère. Donc le père de mon père, donc Viet Minh, donc c'est-à-dire que pendant un temps il a été dans le maquis, et pour ma mère c'était une
inavouable.
C'était du côté de mon père, c'était totalement inavouable. Oui. Ma mère qui a quand même vécu pendant plus de 30 ans quoi. 40 ans avec mon père n'avait jamais su que son beau-père était Viet Minh. Et quelque part, moi, je me demandais, mais pourquoi un tel secret sur quelque chose qui n'était pas honteux, le fait qu'il ait voulu, qu'il ait un temps combattu avec Ho Chi Minh. Alors là, tout ça, faut comprendre la psyché de cette diaspora vietnamienne, qui est que, enfin, moi, j'ai été élevée dans un anticommunisme assez, viscéral, puisque la diaspora vietnamienne a fui après 75, le pays.
À la chute de Saïgon.
Donc beaucoup viennent du sud, même ceux qui viennent du nord, comme la famille de mon père, après 1954, donc après Dien Bien Phu, les accords de Genève, ont décidé de fuir le nord pour aller dans le sud, donc sont devenus des anticommunistes fervents. Et en fait, donc pour nous, vietnamiens de la diaspora, que ce soit en France ou aux États-Unis, communiste, c'était
inavouable.
La pire des injures. Ouais, ouais. Communiste, c'était moi quand j'étais petite, j'avais peur de Georges Marchais. Enfin, c'était vraiment communiste, c'était ceux qui avaient volé nos terres, puisque dans la mythologie familiale, les terres de ma mère, nos richesses au pays, voilà, ça faisait partie de la mythologie familiale. Donc, en gros, on avait tout perdu, entre guillemets, à cause des communistes. Un petit peu, donc on était un peu dans une espèce de mythologie assez proche de on s'identifiait beaucoup au sudistes, vous savez, dans la guerre de sécession, le nord versus le sud.
Oui, surtout qu'il y a eu une dégringolade sociale aussi.
Voilà,
c'est
exactement.
Ce que vous racontez dans le livre. Là-bas, c'était une famille favorisée.
Ils avaient tout, et là, ils se retrouvent, ils sont des immigrés, donc ce qui pour eux est un peu la lie de la terre, et ils se retrouvent, dans un statut qu'ils n'ont pas forcément voulu. Et du coup, ce simple fait que mon grand-père ait été pendant plusieurs années
Viet Minh,
c'était une honte et un secret qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et alors je regrette évidemment beaucoup de ne pas en avoir parlé avec mon père qui le savait. J'aimerais savoir pourquoi il l'a caché même à sa propre épouse et là encore j'ai aussi des choses qui ne sont pas totalement éclaircies sur ce passé historique.
Et puis il a caché autre chose, votre père.
Et il a caché effectivement
Une famille.
Voilà, qu'il avait une autre famille. Alors, c'est ce que j'ai découvert dans les dossiers.
Avant ou pendant, d'ailleurs?
Avant, bien avant. Donc,
il n'y a pas eu d'adultère ou de double famille.
Justement, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que, en soi, cette histoire est très normale. C'est-à-dire que, qu'un homme ait eu, deux familles. Enfin, des familles recomposées, c'est le quotidien qu'on voit aujourd'hui.
Mais lui, top secret.
C'était top secret parce que c'était pas du tout dans notre culture.
En plus, la première compagne était française.
Était française.
Qu'on appelle la française.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que de par le passé de son grand-père, Viet Minh, et qui du coup avait été très engagé aussi dans la guerre d'indépendance, c'était d'autant plus une transgression que son fils qui était le fils unique de la famille ait eu des enfants avec une entre guillemets française. Je suis désolée mais c'est vrai que c'est la façon dont je pense que c'est quelque chose qui est très fort en tout cas.
Mais vous l'aviez sûrement senti, parce que quand il y a un secret dans une famille, c'est comme un appel d'air, on sent qu'il y a du non-dit, non? Vous l'aviez senti?
Je ne sais pas, parce que bon, sinon je l'aurais. Enfin, honnêtement, c'est vrai que tout s'est dénoué très très tard. Je pense qu'effectivement, je suis dans une famille où on ne dit pas les choses, comme dans beaucoup de familles, et que le fait que je sois journaliste, c'est pas un hasard non plus. C'est que j'ai commencé cette enquête. Et je me doutais bien que au bout de cette enquête, je découvrirais des choses.
Voilà un musicien contemporain, malgré les apparences, avec un titre très symbolique. Road to Home, la route vers la maison natale. Doane Buy, en conclusion, puisqu'on arrive vers la fin de cette émission, moi j'aimerais savoir ce que vous préconisez aujourd'hui pour que les enfants issus de l'immigration, et les codes sont différents selon qu'on est d'une famille asiatique, d'une famille maghrébine, etc. De quelle manière devrait-on traiter très tôt dans l'enfance ces appartenances à d'autres cultures, ces multi-appartenances? On a de plus en plus le sentiment que c'est un problème qui est très mal géré, et par les parents, et par l'école, et par la société.
Ouais, je pense qu'on a effectivement en France tout s'est cristallisé autour de l'identité. Et tout s'est cristallisé autour de l'identité parce qu'il y a finalement une injonction à choisir. On le voit très récemment avec le débat sur la déchéance de nationalité. Qu'est-ce qu'il y a en implicite dans ce débat ? C'est si vous voulez être un bon Français, il faut que vous choisissiez. Et qu'il faut que vous choisissiez de renoncer à votre autre appartenance, donc vietnamienne, marocaine, algérienne, que sais-je. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon Français. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est très déstructurant pour les enfants issus d'immigration, donc les enfants qui, comme moi, sont nés en France, donc qui sont français. Je rappelle quand même qu'il y a un tiers de la population en France qui est enfant d'immigrés, donc c'est pas anodin, c'est quand même très très troublant de penser que sur ce tiers, beaucoup ne se sentent pas français. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'entends quand même beaucoup quand je pars en reportage. Je vois beaucoup d'autres, donc des plus jeunes que moi, voilà, des enfants issus d'immigration et qui utilisent ce même vocable que ma mère, qui disent les Français, il y a les Français et nous, les Français et nous, les Français et nous.
Est-ce que l'école n'aurait pas quelque chose à faire mieux, puisque souvent quand on rencontre par exemple un enfant africain qui est souvent d'une petite ethnie mais parfois prestigieuse, on lui dit mais tu es Peul, tu es Bambara, tu es et très souvent ça allume dans leurs yeux une interrogation car jamais on ne leur a expliqué que c'est leur origine et qu'elle est tout à fait respectable et qu'elle est même très riche et très intéressante. Pourquoi l'école ne cherche-t-elle pas à ce que la parole des enfants s'exprime là-dessus, à ce qu'ils fassent des enquêtes sur leur propre famille? On a l'impression que c'est quand même encore un tabou à l'école.
Alors, je ne sais pas si c'est un tabou. Après, je méfie aussi du fait on demande beaucoup de choses à l'école. Actuellement, en fait, on demande... En gros, l'école devrait se substituer à toutes les carences actuelles du politique. La laïcité... Enfin, vous voyez, dans tous les débats, on demande, on fait des chartes et on demande aux professeurs de se substituer à tout ce qui ne marche pas dans notre société. Donc, je ne pense pas que ça soit que l'école. Moi, je pense que c'est plutôt un fond de l'air, quand même, qui quand même se cristallise autour de cette identité nationale qui est une identité excluante. C'est-à-dire que...
Si tu n'es pas 100% français, ça ne va pas.
Voilà, moi j'ai fait, je me rappelle à l'époque, des débats sur l'identité nationale sous Nicolas Sarkozy. J'en ai fait beaucoup de ces débats, et à chaque fois ce qui remontait de ces débats, c'est les racines de la France, c'est une France judéo-chrétienne. Moi, je peux pas me reconnaître là-dedans. Ce sont pas mes racines. Donc, ça veut dire déjà que je suis exclue de ce qu'on définit comme identité nationale. Et c'est vrai que je pense que la France n'a pas encore admis que l'identité de la France, c'est aussi d'être une terre d'immigration. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis, et ça, je le vois avec mes cousins américains qui n'ont aucun problème à se déclarer américains, Asian American. C'est beaucoup plus compliqué en France.
Merci Doane Buy. Alors, je pense que nos auditeurs auront compris tout l'intérêt de lire cette enquête très sensible donc sur votre propre famille, Le silence de mon père, publié aux éditions de l'Iconoclaste.
Merci beaucoup.
Voilà, on finit sous d'autres cieux, puisque on finit avec Majorstuen, qui est un groupe norvégien, donc de l'extrême nord de l'Europe. Et on peut entendre ces musiciens sur le site d'un autre auteur qui a beaucoup de mémoire, Jacques Erwan. Il a donc créé un site qui s'appelle L'écumeur de mémoire. C'est un musicologue et on peut retrouver les musiques et les sons qu'il a édités, enregistrés au fil de sa carrière, notamment à Radio France. Tout un monde se termine, c'est le magazine des cultures et des identités. À la prise de son, Philippe Palares, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Chaque samedi, Tout un monde, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Sur France Culture, où vous retrouvez maintenant Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.